nous amener bien loin ou construire une maison. Et si on utilise mal le marteau ou l'auto, malheureusement, ça peut faire des dégâts.
Ouais, mais il y a une infinie possibilité, tu sais, avec toutes les trucs sur, je sais pas, les grands philosophes que la Terre a portés. Platon, tu sais, on pourrait dire qu'est-ce que Platon dirait dans telle circonstance, puis là, ben, l'intelligence artificielle pourrait faire techniquement parler Platon en te disant voici ce que Platon dirait concernant l'année 2023 puis tout ce qui arrive, tu sais. Wow, c'est wow. Qu'est-ce qu'un psychologue pourrait dire par rapport à quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée, ou qu'est-ce qu'un psychiatre pourrait dire par rapport à quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée? C'est incroyable, mais en même temps, ça peut faire peur aussi parce que ça peut être utilisé à mauvais escient, là.
Oui, tout à fait. Puis, ben, de nouveau, c'est une question d'éducation. Tu sais, quelque part, l'éducation dans nos écoles doit changer énormément parce qu'elle doit s'adapter à tous ces outils. Il y a parfois la facilité. Quand je pense à mon garçon qui a 13 ans et qui me dit, mais ça me sert à quoi que j'apprenne à additionner des fractions ou à les multiplier ou faire de l'algèbre parce que je prends ma machine à calculer ou je prends l'ordinateur, il va faire la job à ma place. Et j'essaie de lui faire comprendre que le raisonnement mathématique, ça l'aide aussi à, quand on fait sa commission, à ne pas faire de surachat ou de bien évaluer son budget. Et que
Exact.
si on n'apprend pas à faire ces choses-là, eh bien, on va se faire malheureusement avoir par le commerçant ou par l'industrie qui a fabriqué le produit qu'on veut acheter. Et ce qui fait en sorte que il y a quand même des outils qui sont utiles. Mais je peux comprendre que oui, le jeune va se poser plein de questions. Donc, l'éducation doit changer. Il faut revenir peut-être même à des choses peut-être un peu plus concrètes dans nos classes pour que nos élèves ou nos étudiants puissent comprendre à quoi ça leur sert d'apprendre les différentes choses.
Ouais.
Et c'est certain que parfois, il y a une certaine résistance dans le monde de l'éducation et beaucoup plus à l'université que tu croirais que dans les autres niveaux inférieurs.
OK. Puis ça fait pas peur en même temps parce qu'à l'université, on est supposé nous démontrer à quel point on doit avoir une ouverture sur le monde. Faut constamment remettre ce que l'ordre établit. OK, bon, ben voici exemple, un scientifique va constamment douter. Tu sais, un scientifique, par le fait même, doit toujours dans son travail essayer de remettre les choses en question. Tu sais, la théorie de la relativité, bon, je comprends qu'ils ont essayé plusieurs fois, là, mais ils l'ont remis plusieurs fois en question. C'est ça, la science, essayer de la faire progresser. Mais juste pour boucler la boucle avec ChatGPT, puis on va revenir avec tes livres d'ailleurs, parce que je pense que tu as travaillé sur un livre pendant le temps des fêtes. Tu sais, on pourrait dire, en analysant tous les livres de Joël Mauzé, on pourrait dire à ChatGPT, écris-moi un livre à la manière Joël Mauzé sur le TDAH et les enfants. Je veux dire, ChatGPT pourrait faire le travail. Ça te prendrait beaucoup moins de temps à le faire, Joël.
Oui, mais je pense que, tu sais, il y a un plaisir. Il y a des gens qui vont aimer peindre, il y a des gens qui vont aimer faire de la musique. Moi, j'aime écrire.
Ouais.
C'est vraiment, tu parlais que je venais de réécrire un livre récemment. Je l'ai commencé début du mois de décembre, j'ai terminé pendant les fêtes. Mais ça a été un plaisir à chaque matin de me lever. Ma blonde et les enfants dormaient souvent le matin très tard, profiter des vacances pour se reposer. Moi, je suis quelqu'un qui se lève toujours très tôt, en 5 heures et 6 heures le matin, je suis debout. Et donc, d'écrire pendant 4, 5, 6 heures par jour, il y a un plaisir que j'ai de jouer avec les mots, de jouer avec les concepts, d'améliorer aussi la manière. C'est parce que quelque part, chaque fois que je lis un article, je l'intègre avec ce que je connais déjà.
Ben
Donc, j'élimine des choses qui ne sont plus d'actualité, j'en rajoute d'autres. Mais ce jeu-là, c'est un plaisir que j'ai, qui est tellement fort pour moi que je ne crois pas que je serais très heureux d'écrire un livre à travers comment dire, une application aussi utile soit-elle.
j'imagine que ton téléphone a sonné dans les dernières heures, puisque Katia Gagnon de La Presse a fait paraître hier à 5 heures, hier matin, un article qui a fait énormément jaser. Le titre, c'est « Les bébés de classe plus souvent étiquetés TDAH ». Toi et moi, on en a régulièrement parlé de TDAH. On mentionne que les enfants les plus jeunes de leur classe, nés entre juillet en août et en septembre, risquent davantage d'hériter d'un diagnostic de TDAH. Ben, j'avais l'impression que c'était toi qui avais écrit l'article, tout simplement, Joël. Là, je me suis dit, ben Joël répète ça depuis des années, des années. Et on parlait d'un surdiagnostic, puis t'en as fait, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, tu sais, le surdiagnostic sur les enfants TDAH. Puis en même temps, bon, on ne remet pas en question le TDAH, mais le surdiagnostic, t'en as parlé bien avant certains journalistes québécois, puis je t'en félicite, t'es d'avance sur les autres.
Oui, mais écoute, j'ai commencé en 2004 comment dire, interviewé dans la presse sur ce phénomène-là. Et ça vient d'un questionnement que le président de mon jury de thèse m'avait posé comme question, indépendamment de ma thèse de recherche. Il me dit, Joël, ça ne t'inquiète pas l'utilisation des psychotropes tels qu'on le fait avec les enfants actuellement au Québec. Et je ne connaissais absolument pas ce phénomène fin des années 90. Et j'ai commencé, en fait, à fouiller un peu la littérature et vraiment à m'inquiéter. Parce que c'est certain qu'avec la formation que j'ai, où j'ai des connaissances en psychologie, en pédagogie, j'ai beaucoup de connaissances en termes de développement de l'enfant. Quand on voit comment les psychotropes jouent dans le cerveau d'une personne, on peut s'inquiéter d'une surutilisation ou d'une mauvaise utilisation des psychotropes. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aider à court terme un enfant ou un adolescent ou même un adulte. Le tout, c'est de faire attention à ce que ça ne devienne pas une béquille ou qu'on ne l'utilise pas dans une mauvaise direction. Parce que, tu sais, un des gros problèmes que l'on a en psychologie et en psychiatrie, c'est que ce sont des sciences cliniques et pas une science comme on en entend tantôt, tu parlais de la relativité. Mais la physique, c'est une science qu'on est capable de mesurer. Donc, on est capable de le tester. La médecine habituelle, on est capable d'évaluer la réalité du corps. Si, par exemple, une personne a un problème au niveau du diabète, on va être capable, avec les tests qui existent, à bien mesurer l'impact éventuel de cette maladie. Si quelqu'un a un cancer, on va faire une biopsie, on va aller vérifier que si la tumeur, elle est maligne ou elle est bénigne. Si elle est bénigne, on ne fera pas d'intervention spécifique, d'accord? Sauf dans certains cas que je ne connais pas parce que ce n'est pas mon métier. Mais si elle est maligne, donc le cancer peut devenir dangereux pour la personne, il va y avoir une intervention. Dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la psychiatrie, on n'a pas ces indicateurs-là. Donc, ce sont des conventions. Alors, comme tu disais, oh, le TDAH, ça existe, ça reste que c'est une convention. C'est une convention entre des experts et cette convention-là, elle est très utile. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si moi, je parle avec un homologue belge, un homologue australien et un homologue brésilien, quand on parle de TDAH, on sait plus ou moins de quoi on parle parce qu'on a des critères communs sur le plan international. Le problème que l'on a eu depuis 25-30 ans, c'est d'avoir associé ces conventions-là avec la nécessité de prendre un médicament. Et c'est là le lien que l'on fait parfois qui est erroné, parce que ce n'est pas parce que je correspond à une convention que j'ai nécessairement un trouble dans mon cerveau. Et je vais le faire d'une manière extrêmement simple pour essayer de simplifier quelque chose qui est très complexe. Tu sais, Yannick, est-ce qu'une personne, tu le sais en fait que toi et moi, on peut aimer la banane. D'accord? Bon, ben, le singe aime la banane. Sommes-nous nécessairement des singes si on aime
Non,
la banane?
pas du tout.
Donc, tu vois, c'est parce que ce sont des associations d'idées et parfois, tu sais, c'est certain que l'être humain est un primate comme le singe est un primate. Donc, il y a une certaine correspondance entre les deux. Mais ça demande beaucoup de doigté, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir observer un enfant, un ado ou un adulte avant d'éventuellement proposer un diagnostic. Et j'ai été professeur associé en psychiatrie jusqu'à assez récemment à l'Université de Sherbrooke. C'est parce que j'ai décidé de réorienter ma carrière, je fais moins de recherches maintenant. Il me reste juste une dernière étudiante de doctorat à accompagner. Mais ce que j'ai constaté souvent, c'est que les psychiatres sont beaucoup moins enclins à vouloir proposer des diagnostics que d'autres professions. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que parfois, le diagnostic étant l'outil pour pouvoir prescrire un médicament, le médecin de famille qui voit une famille en détresse, on parle de TDA, on parle de TDAH, mais c'est certain que lui va venir, le médecin de famille, son outil de travail, c'est le médicament. Donc s'il y a une grande pression, une grande détresse qui est mise sur la famille, mais veut, veut pas, le médecin de famille va vouloir aider la famille et si les critères du TDA, TDAH sont présents, il va prescrire un médicament. Et c'est ça le problème, c'est que parfois, cette pression qui est mise sur la famille, parfois c'est la famille elle-même qui se met la pression parce qu'on veut performer, on va voir ça un peu plus dans les écoles privées, d'accord? D'autres fois, c'est que le manque de ressources dans nos écoles primaires et secondaires fait en sorte que l'équipe éducative n'arrive pas à aider un élève. Donc ils vont dire, ben, allez voir un médecin, allez voir un psychologue, allez voir un neuropsychologue, puis faites quelque chose, mais allez chercher un médicament pour que votre jeune puisse
Oui.
fonctionner.
Le professeur est désemparé, les parents doivent être désemparés aussi, puis il se présente devant un médecin qui, lui, a 7-8 minutes pour analyser une situation.
Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est pas de critiquer les individus, ni le fait que un parent a accepté, enfin, un couple de parents a accepté que son enfant prenne un médicament. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre, OK, est-ce que c'est la meilleure manière d'aider le jeune? D'accord? Et c'est ça la question que je pose depuis 18 ans.
Oui, mais puis Joël, tu bouscules beaucoup l'ordre établi. Puis moi, le TDAH, j'en avais parlé régulièrement avec des gens qui se disaient étant des spécialistes du TDAH et tout ça. Puis j'arrivais toujours avec cette même statistique-là, c'est qu'au Canada, on a le diagnostic du TDAH, puis assez rapide, on donne beaucoup de médicaments à nos enfants par rapport à l'Ouest canadien. Puis les gens me disent, ben, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit qu'on les surdiagnostique ou soit qu'on traite mieux le TDAH que le restant du Canada. Et là, je me disais, mais comment on peut juste faire, tu sais, comment on peut juste dire, ah ben, ce soit l'un ou l'autre, il faudrait se poser des questions. Est-ce qu'on est meilleur que les autres pour ce qui est du diagnostic de TDAH ou encore on donne beaucoup trop de médicaments parce que nos enfants n'ont pas le temps de prendre 45, 60 minutes avec un médecin qui, lui, va bien évaluer l'enfant pour être sûr et certain qu'il a besoin absolument de médicaments ou c'est peut-être que le fait qu'il n'est pas assez stimulé à l'école, à la maison, fait pas assez de sport, n'a pas nécessairement de passion. Pourquoi on est autant fort sur les médicaments au Québec par rapport au reste du Canada? Puis tu sauras peut-être me dire, peut-être même le reste du monde.
Oui, c'est par rapport au reste du monde, ça c'est certain. En fait, ce qui fait une grosse différence, c'est l'assurance médicaments. Quand Pauline Marois a mis en place l'assurance médicaments publique à la fin des années 90, ça a permis à beaucoup de gens qui n'avaient pas d'assurance privée d'avoir accès à des médicaments. Donc, l'outil, d'accord, tantôt on parlait d'outils, voiture et marteau, mais l'outil de l'assurance médicaments est génial pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un support en termes de médicaments. Donc, ça fait en sorte que les gens qui en ont besoin peuvent l'avoir. Et quand on n'arrive pas, en fait, à fonctionner comme on s'attendrait à le fonctionner, d'aller chercher un diagnostic en santé mentale, d'accord? Mais ça permet d'avoir éventuellement facilement un médicament. Si tu regardes en Ontario, par exemple, les pilules ne sont pas nécessairement considérées comme des médicaments au sens terme comme nous, dans le sens qu'elles ne sont pas. Je suis en train de m'enfarger dans les mots, je suis désolé, j'essaie de trouver une manière de l'expliquer. En fait, c'est-à-dire que l'Ontario, ils peuvent avoir un support au niveau des médicaments, mais ils n'ont pas la couverture similaire à celle que l'on peut avoir au niveau du Québec. Alors, c'est certain que quand le parent lui propose de prendre en fait une médication qui va aider son enfant à l'école, c'est normal que le parent, même s'il hésite un peu au départ, se dise, bah, écoute, qui suis-je moi pour remettre en question ce que la science va me raconter? Donc, je
Exactement.
vais faire confiance aux experts, je vais faire confiance aux médecins, je vais faire confiance aux professeurs, et on me dit que c'est nécessaire que mon enfant prenne un médicament, donc je vais le faire. Donc, on se rend compte que oui, il y a une accessibilité qui est beaucoup plus grande ici au Québec qu'ailleurs, mais quand on regarde en fait la définition du TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique. OK?
OK.
Ça, c'est la définition réelle du TDAH. Donc, ça veut dire qu'il y a une malformation quelque part, si tu veux, donc un trouble neurodéveloppemental qui est d'origine génétique. Donc, quelque part, c'est une problémation un problème de programmation qui vient de l'ADN. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on est aux alentours de 20% de nos jeunes qui ont reçu un diagnostic de TDAH. Je ne crois pas qu'au Québec, il y a 20% de jeunes
C'est un
qui ont
jeune
un
sur
trouble
cinq, là.
neuro. C'est un jeune sur cinq. Je ne
Ouais.
pense pas qu'on a un jeune sur cinq. Donc, la manière dont on fait le diagnostic est questionnable. C'est pas juste le médecin de famille dans son officine qui faut remettre en question. C'est la manière dont on perçoit l'enfant. Et est-ce que parfois, on n'a pas une confusion entre un symptôme et réellement une maladie? Je reprends l'exemple de la banane. c'est que parfois, ce n'est pas parce que je ressemble à un symptôme, ce n'est pas parce que mon comportement ressemble à une liste de symptômes que nécessairement j'ai le trouble ou que j'ai la maladie. Et c'est le raccourci parfois qu'on va faire qui peut amener un problème. Et c'est là l'étude dont on parlait tantôt, c'est que on se rend compte actuellement que les plus jeunes de la classe, dont ceux qui sont nés en juillet, en août et en septembre, ont beaucoup plus de risques de recevoir un diagnostic de TDAH, d'accord, que ceux qui sont nés durant l'automne. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'enfant qui est né le 1er octobre, mettons 2022, et l'enfant qui est né le 30 septembre 2023 vont se retrouver dans le même groupe. Mais il y a un an, biologiquement, d'écart entre les deux.
Ouais, exact.
Donc, ça fait en sorte que les plus, comment dire, les moins matures sur le plan biologique, juste parce qu'ils sont nés durant l'été, ils n'ont pas encore un cerveau suffisamment développé en comparaison avec les plus âgés de la classe. D'accord? On considère même que sur le plan biologique, parce qu'on n'évolue pas tous de la même manière et on a tous des rythmes différents en termes de développement, d'accord? Au même titre qu'il y en a qui vont aimer les fraises et d'autres qui aimeront les framboises, il y en a qui vont aimer les bananes et d'autres qui aimeront le pamplemousse, d'accord? Il y a donc des goûts différents. Eh bien, si vous me permettez cette comparaison-là, mais notre cerveau évolue, mature, mais ne mature pas à la même vitesse chez les enfants de la même manière. Il y a certaines zones qui vont maturer un peu plus vite et d'autres qui vont maturer un peu moins vite. Et donc, à un tel point, c'est qu'à l'école primaire, on estime qu'il peut y avoir 2 ans d'écart sur le plan biologique entre certains enfants. Et ça, ce n'est pas évident pour le professeur. Parce que si avant les cours, la manière dont on donnait les cours et la société relativement calme dans laquelle on pouvait être il y a 25, 30, 40 ans faisaient en sorte que les enfants étaient capables de s'adapter malgré tout. Aujourd'hui, la société est devenue tellement complexe que c'est de plus en plus difficile pour les enfants de s'adapter à la société dans laquelle on est. Et je prendrai juste un exemple. Le fait que, écoute, je ne voudrais pas revenir en arrière avec l'interdiction du divorce. C'est une bonne chose que les couples qui ne s'entendent pas puissent divorcer. L'Église catholique n'a plus son mot à dire par rapport à ça. Le seul problème, c'est qu'un enfant qui voit son papa et sa maman séparés, d'accord? Mais veut, veut pas, ça fait en sorte qu'il doit s'adapter à 3 lieux de vie totalement différents. Et à ce moment-là, ben, tantôt il est chez papa, tantôt il est chez maman, tantôt il est à l'école. On a permis aussi d'avoir des professeurs spécialistes, même au niveau du primaire. Alors qu'il y a 30 ans, on n'avait qu'un seul professeur généralement pour donner, éventuellement un prof d'éducation physique, mais on n'avait qu'un seul professeur. Maintenant, on a des spécialistes. C'est génial parce que ça permet à un prof de musique d'être là, un professeur d'art dramatique, un professeur d'art plastique, de pouvoir donner son talent ou offrir son talent pour les jeunes, donc de les éveiller à quelque chose d'autre que les français et le maths. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être 4 ou 5 figures d'autorité à l'intérieur de la classe, où chacun a sa manière de voir et de le comportement de l'enfant et de faire la discipline. Donc, tu rajoutes, d'accord, toutes ces personnes-là, on se rend compte que pour les enfants de l'école primaire, et c'est encore pire au secondaire, d'accord, on se retrouve avec environ 20 figures d'autorité pour nos jeunes. C'est beaucoup d'adaptation continue. Et comme on ne se rend pas compte de la charge mentale que ces jeunes-là vont vivre, eh bien, parce qu'on dit, ben, c'est normal, c'est la vie d'aujourd'hui, puis il y a des avantages de notre vie d'aujourd'hui, puis tant mieux. Mais cette charge mentale fait en sorte qu'il y a un moment donné où nos jeunes sont saturés. Et quand ils sont saturés, ils vont se désorganiser. Alors, les plus jeunes vont se désorganiser beaucoup plus vite que les plus âgés, simplement parce que leur cerveau est un peu moins développé que les plus âgés.
C'est une étude qui a été réalisée quand même sur 795 000 enfants québécois. On n'a pas pris une dizaine d'enfants, puis on a fait une étude là-dessus, là, 795 000 enfants québécois. Et ce que la journaliste nous mentionne, Katia Gagnon, dans la presse, elle dit que c'est un constat qui suggère un phénomène de surdiagnostic. T'as-tu déjà été, menacé par rapport au travail que tu fais concernant le TDAH, puis le fait qu'il y a du surdiagnostic, tu le mentionnes régulièrement, peu importe le média où tu passes, tu en parles de ça. Es-tu déjà, je sais pas, le Collège des médecins qui a dit, là, Joël Mosé commence à nous énerver un peu?
En fait, pas le Collège des médecins, parce que je ne relève pas du Collège des médecins, mais je relevais jusqu'à il y a peu de l'Ordre des psychologues. Et c'est certain qu'autant j'ai toujours eu beaucoup de respect de la part de la présidence et de son équipe, autant j'ai reçu des comportements, ou comment dire, des commentaires inappropriés de la part du syndic de l'Ordre des psychologues.
Ah ouais? Ça ressemblait à quoi?
On va s'en reparler une autre fois, Yannick.
Ben, c'est parce
Mais
que quand on.
c'est certain que pour eux, tu sais, quelque part, quand moi je critique, c'est comme si je critique la corporation ou je mets de la lumière sur des zones d'ombre. Donc, si je mets de la lumière sur des zones d'ombre, ben, j'éclaire des choses qu'on ne veut peut-être pas nécessairement qu'ils soient annoncées. On va faire en, je fais en, ça fait en sorte qu'on peut douter de la compétence d'un psychologue ou d'un neuropsychologue. Et donc, à ce moment-là, ben, est-ce que je mets le public ou non en danger? Ben, selon eux, oui. Selon moi, non, parce que je m'appuie sur la science.
Exact.
Et je peux pas. Et c'est pour ça que je n'ai jamais d'ailleurs été accusé au conseil de
Mais
discipline,
non, c'est ça.
parce que c'est juste des conversations que j'ai avec eux qui sont jamais agréables, mais parce que ça dérange en fait,
Mais d'un autre
parce
côté,
qu'il faudrait
Joël,
qu'on.
la science doit progresser. La science a besoin de gens qui arrivent puis qui bousculent l'ordre établi. Puis advenant le cas où, je sais pas moi, c'est un côté qui a raison, mais ça va forcer ce côté-là à travailler encore plus fort pour prouver qu'il a raison. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive puis qui dit, ben voici, là ça c'est l'ordre établi, c'est ce que vous avez statué. Mais moi je pense que avec mes études, voici, 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 je pense qu'on a peut-être erré à certains endroits. Peut-être que l'autre côté a avantage à regarder ça pour qu'on puisse progresser tous ensemble. Parce que
Sauf s'il y a un modèle d'affaires.
oui, je sais, oui, effectivement, quand il y a un modèle d'affaires, je le comprends,
Mais
mais
on s'entend que si je suis un scientifique et je travaille pour une compagnie pharmaceutique, mon objectif, c'est que ma compagnie vende plus de médicaments.
deviennent prospères. Ouais.
Donc, c'est certain que si j'ai un peu de pouvoir dans la compagnie et que j'ai peut-être pas nécessairement de morale, ou je vais essayer de me convaincre que ce que je fais, c'est la meilleure des choses à faire pour sauver les enfants. OK, ben veux, veux pas, je vais induire un certain nombre de choses. Je vais faire la même chose à l'université. Si tu voyais le nombre de fois que dans les universités, on a des articles qui commencent « It's a huge problem ». C'est un problème énorme. C'est un problème très grave. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher des subventions. Donc, pourquoi est-ce qu'on subventionnerait quelque chose qui n'est pas grave? Par exemple, les maladies orphelines, donc les maladies pour lesquelles il y a peu de malades, sont rarement financées ou bien financées
Ouais.
parce qu'il n'y a pas de rentabilité possible par rapport à ces maladies-là. Ce n'est pas un gros problème. Mais quand on parle, hey, il y a 10-15% d'enfants TDAH, mais c'est un grave, grave, grave problème. Donnez-moi de l'argent. Et c'est certain que oui, ça part d'une bonne intention. Mais en même temps, l'outil n'est peut-être pas toujours bien utilisé. Et c'est la même chose par rapport au, quand je disais tantôt, le modèle d'affaires, c'est qu'il y a des psychologues et des neuropsychologues qui rêvent de pouvoir prescrire des médicaments, dont sur la base des tests en neuropsychologie. Donc à partir de ce moment-là, si moi je viens, et je ne suis pas le seul, d'accord, mais je suis peut-être un des plus médiatisés par rapport à ça, mais je suis loin d'être le seul qui remet en question certains modèles, mais à ce moment-là, ça fait en sorte que ceux qui aimeraient prescrire des médicaments, parce qu'il y a une certaine notoriété à ça, à poser un diagnostic, à proposer des médicaments, parce qu'on est comme les médecins, tu sais. Donc à partir de ce moment-là, je peux déranger ces personnes. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça veut juste dire des personnes qui ont des biais. Une des personnes qui a le plus de biais sur le plan scientifique, c'est le pharmacien. Olivier Bernard est une bonne personne,
Oui.
d'accord? Mais quand on lit la manière dont il lit la science, on peut présumer, je le mets bien en hypothèse, on peut présumer qu'Olivier Bernard a une certaine tendance à croire que l'être humain va se comporter beaucoup mieux ou vivra beaucoup mieux en utilisant de plus en plus de médicaments. Et c'est vrai que pour certaines maladies, oui, ça se justifie, mais on tombe un peu peut-être dans le transhumanisme quand on va jusqu'à la modification du corps. Et
Ouais.
c'est là que l'éthique devient importante. Et je n'ai pas la prétention d'avoir raison. Ce que j'ai comme démarche, c'est de poser des questions et de ramener, en tout cas dans ce que j'essaye de faire, ramener l'essentiel, est-ce qu'on peut s'intéresser à la souffrance de l'enfant? L'enfant qui est devant moi, il est en détresse. L'enfant a de la difficulté à se repérer dans la vie. Il a des difficultés à développer ses habiletés, il a peut-être de la difficulté à réussir à l'école, soit par manque d'intérêt, soit parce que papa et maman ne vont pas bien, soit parce que lui-même, il a des difficultés d'apprentissage. Donc, revenons aux besoins de l'enfant. Moi, tu sais, je suis pas là pour pouvoir critiquer qui que ce soit. Je dis juste, oublions un peu notre orgueil d'adulte et prenons le temps d'écouter l'enfant, prenons
Ouais.
le temps d'écouter la souffrance de nos adolescents et d'essayer de trouver le moyen de les aider au mieux.
Est-ce que des parents, Est-ce que des enseignants primaires, secondaires, est-ce que des médecins pourraient confondre, je ne sais pas moi, des comportements d'inattention, des comportements où les enfants sont plus turbulents comme étant des effets du TDAH?
Oui. En fait,
mais le médecin n'a pas le droit de confondre les deux, là.
Mais ce n'est pas possible de ne pas confondre les deux parce que ça prend du temps. Par exemple, je dirais une des choses, Yannick, qui m'a été le plus souvent dite quand je faisais de la clinique, c'est « Ah, écoute, Joël, ça, ce n'est pas juste. » « Ce n'est pas juste. » « Qu'est-ce qui n'est pas juste ?»« Mais non, non, c'est parce que toi, tu n'as pas le vrai enfant. » « Je n'ai pas le vrai enfant. » Mais oui, tu sais, dans ton bureau, il est calme, il est gentil, il répond aux consignes, il est intéressé, il est motivé.
Ouais.
Mais à la maison et à l'école, il est terrible. Et ça, c'est génial, parce que quand le parent se rend compte de ça, il se rend compte, en fait, que quand on est dans un environnement qui est adapté aux besoins du jeune, le jeune fonctionne. Et que quand l'environnement est un endroit dans lequel il peut, puis je dis, papa et maman peuvent avoir des difficultés, ça peut être des difficultés de couple, ça peut être des difficultés financières, ça peut être un travail qui est extrêmement harassant, donc il y a moins de patience le soir, ça peut être une famille un peu trop nombreuse, ça peut être des familles recomposées. Donc, je ne suis pas en train de juger le parent là derrière. Au contraire, l'importance, de nouveau, je reviens, essayons de regarder qu'est-ce qui fait du bien aux jeunes, okay? Comment répondre aux jeunes. Mais donc, quand le parent se voit justement les différences de comportement, d'accord, eh bien, veut pas, il se rend compte que finalement, leur jeune, ce n'est pas un trouble neurodéveloppemental, parce qu'un trouble neurodéveloppemental, ce n'est pas un on-off. C'est tout le temps quand on a un trouble. Donc, quand on voit que dans des lieux différents, d'accord, l'enfant a, ou l'ado a un comportement différent, ben là, on va mettre un point d'interrogation par rapport à l'éventualité, justement, du TDA ou du TDAH. Alors, vous allez me dire, oui, mais à l'école et à la maison, c'est pareil. Oui, mais peut-être que c'est les mêmes stresseurs. Ce sont des stresseurs de performance, c'est des stresseurs d'un grand groupe. C'est peut-être l'enfant qui n'arrive pas à se retrouver. Peut-être que l'enfant n'arrive pas à s'outiller tout simplement et que quand on le met dans un environnement qui répond mieux à ses besoins, à ce moment-là, on a un enfant qui ronronne dans le sens qu'il est capable de pouvoir développer beaucoup plus facilement son cerveau et répondre plus facilement aux consignes que les adultes pourraient lui donner éventuellement. Alors, parfois, quand on prend un test comme le Connors, qui est un des tests les plus utilisés pour déterminer si l'enfant a ou n'a pas un TDAH, si on l'observe dans des lieux qui représentent le même genre de défi, ben ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement fait le travail. Si mon jeune est capable de faire du soccer, de faire du hockey ou de faire du football, et que quand il fait un entraînement, ça marche très bien, ben si ça ne marche pas bien en classe ou quand il fait ses devoirs à la maison, c'est probablement pas un trouble neurodéveloppemental. Si le jeune fonctionne bien en musique ou en art dramatique ou s'il fait de l'improvisation puis il est très intelligent, très smart quand il fait de l'impro, ok, ben c'est pas un déficit d'attention. C'est peut-être un problème autre. Tantôt, je disais que j'ai fait des longues études. Yannick, si tu me mets dans une classe où je dois apprendre le mandarin, la langue qu'on parle en Chine, veux pas, j'ai pas d'intérêt. Premièrement, j'ai un déficit auditif, ce qui fait en sorte qu'il y a des sons que j'entends très, très, très mal, donc j'ai toujours eu de la misère avec les langues. La deuxième chose, je ne vais pas en Chine, j'ai pas planifié de faire un voyage ou d'aller travailler là-bas. OK, j'ai personne dans mon entourage qui parle le chinois. OK, je n'ai pas l'intention d'adopter une petite chinoise. Donc, je n'ai aucune motivation personnelle à apprendre le mandarin. OK? Mais si tu me mets dans une classe où je dois apprendre le mandarin, je vais me désorganiser.
Tu vas être le dernier de classe.
Exactement, parce que mon intérêt n'est pas là. Donc, quelque part, nous devons aussi nous poser comme pédagogues des questions. Est-ce que nous mobilisons suffisamment nos élèves ou est-ce qu'on part du principe que c'est à l'élève de s'adapter? Donc, c'est certain qu'on ne doit pas, nous, comme pédagogues ou comme parents, nous adapter à des caprices. Mais en même temps, nous devons vérifier si la manière dont on leur enseigne ou la manière dont on les éduque à la maison, c'est cohérent avec l'étape de développement dans laquelle le jeune est à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a un coût associé au surdiagnostic au Québec? On parlait de l'assurance médicaments tout à l'heure, mais dans l'article, on parle d'un coût de 58 millions de dollars. Entre les enfants qui sont nés entre 1996 et 2005, puis on dit que ces enfants auraient été mal évalués. Et ça a coûté 17 millions en trop en services médicaux et 41 millions en trop en médicaments.
Écoute, ce qui est très intéressant, moi j'adore cette étude-là, j'ai hâte qu'elle soit publiée officiellement, qu'on puisse aller fouiller un peu plus, parce que c'est vraiment une étude très très intéressante. Cela dit, ce sont des personnes qui travaillent en économie, d'accord? Donc leur vision pour eux, ça a été de dire, ben voilà, si on fait un mauvais diagnostic, ça a coûté 58 millions de trop
Ouais.
à l'État
Mais
québécois
ça marche pas
en
comme ça.
termes d'assurance médicaments. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est des vases communicants parce que ce
Exact.
qu'ils font, même si c'est un surdiagnostic en termes de TDAH, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une détresse chez ces jeunes-là. La détresse, ça peut être dû trop d'anxiété, ça peut être dû une difficulté d'adaptation. Mettons que, tu sais, par exemple, quand on a un papa et maman qui se disputent pendant toute la nuit, ça fait pas un élève qui est très attentif le lendemain. Si c'est un élève qui a l'impression, quand il est chez lui, que parce que papa et maman vivent des choses difficiles, qu'il n'y a pas vraiment de place pour lui, mais probablement qu'il va attirer l'attention d'une manière négative en classe. Il sera peut-être plus spontané. Être spontané, c'est pas de l'impulsivité. Donc, parfois, le jeune va avoir besoin d'une aide et peut-être que cette aide-là va être offerte ou pourrait être offerte à l'intérieur de l'école qui ferait en sorte qu'on pourrait répondre. Tu sais, il y a une des choses qui est apparue pendant la pandémie. J'ai travaillé beaucoup avec Jean-François Roberge qui avait créé des comités pour le soutenir dans le processus de, comment dire, d'application des mesures sanitaires tout au long de la crise. Mais une des choses qu'on a observées après le premier retour en classe, au retour en classe après le premier confinement, excuse-moi, donc au mois de mai-juin 2020, c'est qu'il y avait les fameuses classes bulles. Donc c'était des groupes d'enfants d'un maximum de 10 enfants avec un enseignant. Donc c'était toujours ces 10 ou 11 personnes qui étaient tout le temps ensemble. Donc petit groupe. Et on s'est rendu compte en fait que la plupart des élèves, même ceux qui avaient 2 ans de retard par rapport au groupe, eh bien ils raccrochaient le wagon. Simplement parce qu'il y avait un lien de confiance qui s'établissait avec le professeur.
Et qu'il n'y avait qu'un
Comme il y
seul
avait
tuteur.
avec un seul tuteur, exactement, petit groupe et un seul tuteur. Et donc, on se rend compte que nos classes sont trop grandes. Il y a trop d'élèves dans nos classes. Donc, si on prend en compte cette donnée-là de 58 millions de dollars et qu'on se dit comme société, nous voudrions avoir des classes plus petites pour mieux répondre aux besoins affectifs de nos adolescents, de nos enfants, pour qu'ils puissent mieux apprendre. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà eu un accident de la route, mais au moment où on fait un crash, si on nous donne des informations après le crash, on a la tête
Il n'y a
ailleurs.
rien.
Et mettons qu'on s'en soit sorti sans avoir de dommages, on est inquiet par rapport aux coûts financiers, par rapport aux réparations et tout ça. Et d'ailleurs, comment dire, les informations qui vont nous être données au moment où on fait le constat ou qu'il y a un dépanneur qui vient nous aider, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, parce que affectivement, on n'est pas disponible à mémoriser les choses. Donc, un jeune qui est en état de détresse, affectivement, il n'est pas disponible pour apprendre des matières scolaires, parce que c'est pas utile pour la survie. C'est utile pour le développement et l'autonomie dans la société, mais pour la survie physique et psychologique, ce n'est pas utile. Donc à ce moment-là, le jeune ne va pas les enregistrer. Si tu as un jeune qui a passé sa nuit à ramasser papa ou maman qui malheureusement a consommé un peu trop d'alcool et qui ramasse le vomi pendant une partie de la nuit ou qui console son frère et sa sœur parce qu'il y a eu beaucoup trop de tension à l'intérieur de la maison, d'accord, ben veut, veut pas. Le lendemain, il va avoir besoin que le professeur prenne soin de lui. Et si le professeur ne répond pas à son besoin, ben, soit il va partir de la lune, ça va ressembler à du TDA, donc déficit d'attention, il va être distrait, il va penser ailleurs, il va penser à son frère ou à sa sœur qui avait de la peine, il va peut-être penser à un chagrin d'amour ou fait qu'il pourrait, parce que peut-être que c'est lui simplement qui passe à travers un mauvais moment dans sa vie, d'accord? Donc il va être préoccupé par son affectif et il sera pas préoccupé par ce que le professeur raconte, même si c'est le meilleur prof, d'accord?
La dernière fois où tu es passé, Joël Monzé, il y a un auditeur qui m'avait écrit et me dit: Ah, bonjour, je t'ai entendu parler avec Dr. Joël Monzé, qui est spécialiste en neurosciences. Et il mentionnait, il dit, est-ce que, parce que lui, il faisait un rapport avec la COVID-19, là, puis la campagne de vaccination obligatoire, il disait, les jeunes qui sont turbulents et à qui on donne des médicaments contre le TDAH, qui est pas nécessairement adapté pour eux, est-ce que les bienfaits de ce médicament-là dépassent les effets peut-être nocifs du médicament chez cet enfant-là qui ne souffre pas de TDAH?
En fait, ce que ça va faire comme effet, c'est que ça va améliorer sa concentration quand on lui demande de faire quelque chose. Éventuellement, il n'a pas le goût de faire des maths, mais le médicament va faire en sorte que quand on lui donne un travail de maths, il va faire son travail de maths sans plus se poser de questions. Donc, à ce niveau-là, à court terme, ça apporte quelque chose qui est utile. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'études longitudinales sur qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là, d'accord, quand on leur donne des médications, une médication comme ça à très long terme. On sait qu'on est régulièrement obligé d'augmenter la dose de médicaments. On dit officiellement que c'est à cause du fait que l'enfant grandit. Moi, j'aurais envie de dire, comme neuroscientifique, ben peut-être parce qu'on émousse les neurones sont de moins en moins efficaces parce qu'ils ont besoin du médicament pour pouvoir être capables de fonctionner. Un peu comme une personne qui a une jambe cassée, on lui met un plâtre, très utile pour pouvoir reconstruire son os, mais quand on enlève le plâtre, il va y avoir une atrophie musculaire. Notre cerveau a tout le temps besoin de fonctionner pour pouvoir, en fait, donner le maximum de ses ressources. Donc, si je deviens, si j'étudie peu ou que je me remets peu en question ou que j'apprends peu de nouvelles connaissances, mettons à partir de mes 40 ans, eh bien, à partir de ce moment-là, on voit qu'il va y avoir une régression de la taille de mon cerveau parce que je le sollicite beaucoup moins, mon cerveau. C'est, tu sais, beaucoup de troubles. Tu sais, parfois, au-delà de 40 ans, on a des trous de mémoire, on ne se souvient plus. Hey, je me souviens plus de ceci ou de cela. C'est juste parce qu'on n'a pas entraîné cette mémorisation-là. Les neurones ont besoin de fonctionner continuellement ensemble. Les élèves sont très stimulés à faire ça, donc c'est naturel. Donc, de pouvoir justement avoir cette stimulation-là. Et les enseignants ou les professions où il y a toujours des nouvelles matières, ou de la nouvelle matière à connaître. Je pense entre autres à des pilotes d'avion qui doivent s'adapter continuellement à des nouveaux appareils, mais veut pas, sont des cerveaux qui ont tout le temps l'habitude de mémoriser des nouvelles choses. Donc, à ce moment-là, le cerveau reste très vif pour mémoriser et se rappeler les connaissances. Alors que celui qui s'assoit sur ses lauriers, qui se pose de moins en moins de questions, qui apprend de moins en moins de choses, qui regarde beaucoup trop souvent Occupation Double, eh bien, à partir de ce moment-là, d'accord, eh bien, son cerveau va progressivement diminuer en volume, et ce sont des personnes qui, malheureusement, risquent beaucoup plus que d'autres de développer des maladies comme l'Alzheimer ou comme la sénilité. Donc, notre cerveau a continuellement besoin de se réalimenter, en fait.
Bon, ben, tu m'as convaincu, je me remets au mot croisé.
C'est une bonne chose. En fait, l'idée, c'est de choisir quelque chose qui fait du bien.
Ben
Donc,
oui.
si une personne aime les romans, ben, qu'elle lise des romans. Si une personne aime l'histoire, qu'elle se plonge dans plein de choses au niveau historique. Si c'est les voyages, c'est s'intéresser aux différents pays, aux différentes cultures, aux différents aspects géographiques des pays qui la passionnent. Donc, le tout, c'est de maintenir, en fait, une activité intellectuelle tout au long de sa vie pour que, quand on a 65, 70, 80 ans, on soit capable, en fait, de mieux fonctionner. Alors, je reviens avec ta question. C'est que quand on comment dire, quand on donne un médicament pendant très longtemps qui joue dans le cerveau, eh bien, on le sait, on a essayé ça entre autres avec notamment, j'ai oublié le nom du médicament, je pense que c'est, oui, c'est pas grave, ça me reviendra, c'est un trou, tu vois, ça m'arrive à moi aussi d'avoir des trous de mémoire à un moment donné
On
ou à un
va faire
autre, mais
les
il y a
mots
des
croisés
médicaments.
ensemble, Joël.
Exactement. Mais il y a des médicaments qu'on a testés qui ressemblent très fort à ce qu'on donne pour un enfant qui a le TDAH et on voit
Ouais.
en fait que le neurone est de moins en moins solide. Donc si le neurone est de moins en moins solide, ça veut dire qu'il est de moins en moins efficace. S'il est de moins en moins efficace, mais ça veut dire qu'on a de plus en plus besoin d'augmenter la dose de médication. Et c'est là l'aspect problématique. Et tu sais, pendant longtemps, ma collègue et amie psychiatre Annick Vincent disait que, elle citait une étude de Biderman, qu'elle disait, oh, si on ne médicamente pas l'enfant, eh bien, il va tomber dans la drogue. Et donc, ça a été un des éléments qui a poussé beaucoup de médecins à éventuellement augmenter le nombre de jeunes sous médication. Sauf que on ne cite jamais la deuxième étude que Biderman a faite, a publiée quelques années plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première étude, il avait observé des adolescents qui avaient pris de la drogue et puis il observait, bah, ils doivent être TDAH, c'est pour ça qu'ils ont pris de la drogue. Donc, il y a une phrase dans son article qui dit, ce n'est pas une étude longitudinale, c'est plus une hypothèse qu'une conclusion. Mais on parle du premier article. Deuxième article, il a fait une étude longitudinale. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que il n'y a aucune corrélation entre la prise ou non de Ritalin ou d'Adderall ou de Concerta, de TDAH et la prise de drogue ultérieurement. Okay. Au contraire, quand on regarde le modèle animal, on a fait des tests, donc c'est une autre équipe qui a fait ces exercices-là, et on s'est rendu compte en fait que quand on a des souris qui sont programmées génétiquement pour être TDAH ou programmées génétiquement pour être anxieuses, mais d'une part, les anxieuses bougent beaucoup plus que les hyperactives, parce que les hyperactives ont juste du plaisir dans la découverte de nouvelles choses. Ce sont des souris qui sont très très curieuses, mais les autres sont agitées. D'accord? Donc, il y a une différence entre l'hyperactivité et l'agitation. Et ce qu'il y a, quand ils ont donné la possibilité à ces souris-là d'aller chercher éventuellement de la drogue, eh bien, les seules souris qui allaient chercher de la drogue, c'était les souris anxieuses. C'est une automédication. Donc, de présumer que parce qu'on ne médicamente pas un enfant, il va nécessairement tomber dans la drogue, c'est une hypothèse qui a été invalidée, mais on en parle rarement, on parle souvent de la première étude, malheureusement.
Parce que ça défait l'ordre établi.
Mais ça remet en question
Ouais.
la manière de voir les choses, ça remet en question les
Exact.
modèles que tu utilises. Puis tu sais, la science, elle évolue tout le temps.
Tout le
J'ai
temps.
encore découvert, tu sais, j'ai écrit un livre pendant le mois de décembre, mais je suis replongé dans certains éléments pour voir où est-ce qu'elle en était, la littérature scientifique, par rapport à un phénomène ou l'autre. Et j'ai encore appris des choses. Tu vois, donc c'est parce que je suis tombé sur des nouveaux articles, soit publiés, soit des articles que je n'avais pas éventuellement lus auparavant. Il y a tellement d'articles qui existent de toute façon qu'on peut se perdre parfois dans cette littérature-là. Et on voit que les connaissances évoluent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre cerveau évolue continuellement. Tiens, les êtres humains, on a une partie de notre cerveau qu'on appelle le préfrontal, qui est juste derrière notre front. On est la seule espèce à avoir cette partie-là, en fait, de cerveau. Il n'y a aucune autre espèce vivante sur la Terre qui a cette partie-là. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'elle n'atteint sa pleine maturité qu'entre 40 et 45 ans.
Ah, ben il m'en
Et
reste encore un peu. OK, oui.
ouais. Donc, mais ça veut dire que cette partie du cerveau-là, premièrement, c'est celle qui tempère nos excès d'émotion. C'est
Ouais.
celle qui tempère nos pulsions motrices. D'accord? C'est celle qui fait en sorte qu'on est capable de réfléchir, qu'on est capable de nuancer, qu'on est capable de se voir aller, qu'on est capable de faire de l'éthique. D'accord? Donc, ça prend du temps pour pouvoir arriver à bien se développer.
La
Et
sagesse.
la sagesse, mais oui, mais si elle arrive à 40 à 45 ans, on s'entend que nos jeunes sont loin d'avoir atteint le plein potentiel de leur cerveau. Et
Ouais.
je dirais la plupart des papas et des mamans aussi. Quand ils deviennent parents vers 25 ans, ils ont encore 15 à 20 ans de développement de leur cerveau. Donc,
Exact.
beaucoup de jeunes parents ont besoin d'aide parce que parfois, ils ont de la misère à gérer leur petite famille, même encore à 30 ans ou à 35 ans. Donc, on se rend compte que plus on comprend le cerveau et plus on peut être relâche. Un, on va relâcher la pression, en fait, on devrait relâcher la pression qu'on a sur nos épaules. Mais on devrait peut-être faire attention à la manière dont on éduque nos enfants et d'essayer de limiter le plus possible tout ce qui va venir perturber leur développement.
OK. Est-ce que le TDAH, puis on va faire une pause dans 1 minute environ, Joël, si tu le veux bien, 1 ou 2 minutes, là, parce que je sais que la réponse risque d'être un petit peu plus longue qu'une minute. Est-ce que le TDAH est arrivé sur Terre en même temps que tout le monde? Quand on parle aux jeunes, ils ont l'impression que le TDAH a toujours existé. Quand on parle aux moins jeunes, ils vont te dire, ben Joël, le TDAH n'existait pas dans mon temps. Puis est-ce qu'on connaît le pourquoi du TDAH?
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui est vrai, c'est la difficulté que vit la personne, éventuellement sa détresse. Ça, c'est vrai. Ce qu'il faut faire attention, c'est de nécessairement prétendre qu'il n'y a qu'une seule et unique manière d'avoir une explication à cette détresse-là. Dans le sens que, par exemple, on sait que pour la dépression, d'accord, il y a 9 zones du cerveau. Donc, 9 organisations différentes dans le cerveau qui peuvent induire les mêmes symptômes de dépression. Donc, de donner des antidépresseurs systématiquement, on devrait se questionner. C'est la même chose. On sait qu'il y a au moins 8 zones différentes dans le cerveau qui peuvent déclencher les comportements d'hyperactivité ou de déficit d'attention. Donc, ça prend de nouveau du temps pour pouvoir dire les choses. Donc, ce qui est vrai, c'est la détresse. La détresse humaine, elle existe depuis toujours, mais notre manière d'en parler, et les modèles que l'on a ou qu'on utilise pour pouvoir décrire et éventuellement intervenir auprès de ces personnes-là sont peut-être des manières plus récentes, en fait, de définir les choses. Puis en tant que toi et moi, je dis, le TDAH en lui-même ne me dérange pas. Le souci, c'est de vérifier est-ce que c'est la meilleure manière d'aider mon jeune. Si mon jeune est né le 30 juin, ou s'il est né le 1er octobre, c'est peut-être un problème de maturation normale et naturelle. On n'est pas dans un trouble psychiatrique, on est simplement avec un jeune qui a un cerveau un peu moins mature que d'autres dans la classe, d'accord? Et donc ça, il faut faire attention à ne pas aller trop vite parce qu'on risque peut-être d'induire une mauvaise croyance sur ce jeune-là.
Okay. Et le TDAH, est-ce qu'il existe juste en Amérique du Nord et en Occident ou il existe sur tous les continents?
Mais je pense qu'il va exister sur tous les continents, mais on s'entend que si toi et moi, on vivait dans les favelas ou dans les bidonvilles des pays en voie de développement,
ouais.
On ne s'occuperait pas de savoir si on a ou on n'a pas, parce qu'on serait occupé à essayer de survivre. Je crois qu'on en constate beaucoup d'effets parce que nos jeunes sont dans nos écoles, d'accord, et que là, on observe un certain nombre de réactivités chez le jeune, et c'est pour ça qu'on en tient compte. Je crois que c'est relativement universel. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a 20 ans, on parlait de 3 à 5% d'enfants TDAH, et aujourd'hui, on parle de 10 à 15% comme étant une normalité. Mais quand ça devient aussi important, 10 à 15% de la population, 20% dans l'étude de Madame qui a été rapportée par Madame Gagnon, un enfant sur 5, est-ce qu'on est encore dans une anormalité du cerveau ou on est dans un comportement qui est de plus en plus général parce que nos écoles et notre société n'est plus capable d'aider ou d'encadrer nos jeunes. Tu sais, parfois, c'est juste une surutilisation des écrans, d'accord, qui vont induire les mêmes symptômes qui ressemblent au TDAH.
Parce que ça va vite en tabarouette, Joël, tellement que moi-même, en tant qu'adulte, bon, est-ce que j'étais TDAH quand j'étais jeune? Non, je ne sais pas. Mais quand le calme revient, là, quand il n'y a plus rien qui bouge, quand la télé est éteinte, quand j'ai pas mon cellulaire, quand il n'y a pas personne autour de moi, je me cherche quelque chose à faire. On dirait qu'on est tellement surstimulé partout qu'à partir du moment où il ne reste plus rien à faire, on stresse.
Oui. Et ça ressemble à l'hyperactivité, mais ce n'est pas l'hyperactivité.
Non.
Qu'un jeune qui est beaucoup sur un jeu vidéo, c'est beaucoup sur une tablette, qui est fréquemment en train de chatter avec ses copains et ses copines, ou qui a son téléphone qu'il le fait pendant la cour, quand il est dans la cour de récréation à des heures autorisées par l'école, mais veut pas, quand il rentre en classe, s'il n'est pas stimulé par le professeur, même si c'est le meilleur professeur du monde, tu peux avoir le meilleur historien devant toi. Si l'enfant ou l'ado n'aime pas l'histoire ou n'arrive pas à s'intéresser à l'histoire, ben, il va y avoir une difficulté de concentration sur ce que le professeur raconte, d'accord? Donc, veut pas, si le jeune ne se sent pas bien, ben, OK, il est où mon téléphone? Je peux-tu jouer à un jeu? Ils sont où mes amis? Et donc, le malaise, le mal-être va être présent et le jeune risque de se désorganiser en classe. De nouveau, ça va ressembler à de l'hyperactivité ou un déficit d'attention, mais ça ne veut pas dire qu'il y a justement le fameux TDA ou TDAH.
Mon invité de ce soir, voulant en savoir plus, joelmonzé.com, il est docteur en neurosciences. Il est aussi un excellent auteur, fait des conférences une fois de temps en temps. Vous avez, voulant en savoir plus, joelmonzé.com. Donc, on fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. NDFI, c'est l'entreprise de Québec en haute technologie avec la croissance la plus rapide. Nos équipes travaillent au développement et à la mise en marché de solutions de diagnostic permettant de préserver la sécurité de nos communautés et de notre planète. Ça t'interpelle? Il y a de la place pour toi chez NDFI. Joins-toi à une équipe performante qui défie les conventions, un projet à la fois. Commence ton année en prenant le contrôle de ta carrière. Explore tes possibilités chez NDFI via tonavenirencontrôle.com.
Plus de temps en famille, consommer moins, maximiser notre bonheur, c'est des résolutions faciles à réaliser avec un Rogue 2023 du groupe Pocket. La place pour toute la famille, même le chien, une résolution de cocher. À peine 6,7 litres aux 100 km sur route, une autre de cocher et un maximum de bonheur au volant avec le meilleur VUS de sa catégorie selon les journalistes auto. Venez choisir votre Rogue 2023 prêt pour livraison pendant l'événement d'adrénalinologie chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Pocket-Nissan.
Allô, ma belle, c'est Catherine. Je viens juste d'apprendre qu'il va y avoir un méga festival de bulles au Vieux-Port en février. Il faut vraiment qu'on y aille. Ça s'appelle Bulle Whisky Gastronomie, puis apparemment, c'est le plus gros salon de bulles et spiritueux au Canada. Sur leur site web, bullewhisky.com, ils parlent de 65 kiosques d'exposants, des restaurateurs, des DJ, un band, puis même une compétition de mixologie. Sérieux, là, je me peux plus. Appelle-moi qu'on boucle ça avec les girls, OK? Bisous!
Bulle Whisky Gastronomie en février. Une présentation Passe-Partout Bonne Chère et les prêts à boire au devis.
Porcini, prosciutto, carciofi.
Stefano, qu'est-ce que tu fais?
La liste d'épicerie pour le souper.
On peut pas juste manger des pâtes.
Je pense que oui.
Simplifiez-vous la vie. Retrouvez nos produits dans toutes les bonnes épiceries et des idées recettes sur stefanofaita.com.
Une batterie qui tombe à plat en plein hiver, c'est juste bien plat. Évitez ça en passant nous voir avant le 15 février chez Desharnais Pneus et Mécaniques. On va vérifier la batterie et le système de charge de votre véhicule gratuitement. Desharnais, c'est juste parfait.
Logibourg est propriétaire d'immeubles depuis plus de 45 ans et depuis tout ce temps, nous prenons soin de nos logements et de nos locataires. Venez vous-même le constater. Goûtez enfin un service de qualité et trouvez le logement que vous recherchez. Trouvez le logement parfait pour vous au logibourg.com.
L'année 2023 commence et si vous portez des lunettes, c'est votre année chanceuse. Pour lancer 2023, Gréchiska fait une offre géniale. 20 000 montures toutes réduites à 23 $ chacune à l'achat de la paire complète. Jacinthe Laurendeau, opticienne, prenez rendez-vous ou apportez votre prescription chez Gréchiska.
Goûtez au plaisir et à la fierté de conduire un camion lourd en devenant camionneuse ou camionneur. Un métier qui permet de voir du pays et qui procure un sentiment de liberté au volant de votre camion. Passez à l'action avec le Centre de formation en transport de Charlebourg, le CFTC, qui vous offre le DEP en transport par camion. Une formation complète et gratuite en seulement 4 mois et demi. Départ des cours à chaque mois. Réservez votre place dès maintenant en visitant le cftc.qc.ca. cftc.qc.ca. Une nouvelle carrière vous attend.
Avec le Festival des crêpes à volonté de Cora, si vous mangez une crêpe, c'est 10 $. 5 crêpes, c'est 10 $. Et 10 crêpes, à votre avis, c'est 10 $ aussi. Je continue ou c'est bon? C'est bon, hein? Offre disponible jusqu'au 12 février, seulement dans les salles à manger Cora.
Inflation, récession, votre budget est mis à rude épreuve? Pour y voir plus clair, consultez l'équipe de Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Depuis plus de 45 ans, Leblon et Associés aident les particuliers et les entreprises à se relever de leurs difficultés financières. Pour en savoir plus, consultez le gosyndicleblon.com.
Si je te dis bière de micro et pizza, ça te donne le goût, hein? Du mardi au dimanche, ça se passe à l'Emporium. Avec une variété de bières brassées sur place et des pizzas cuites au four à bière rotative, l'Emporium, c'est la place pour une soirée en chum. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
Envie de repousser vos limites? C'est possible grâce à Dion Sport Saint-Raymond. Passez au magasin de Saint-Raymond et voyez comment vous pourriez dominer la nature. Le VTT Can-Am Outlander a tout ce qu'il vous faut pour rehausser vos aventures. Et obtenez jusqu'à 500 $ de rabais sur certains modèles 2022 sélectionnés. Visitez Dion Sport Saint-Raymond à Saint-Raymond pour prendre la clé des champs sur un véhicule Can-Am conçu pour vous transporter partout. Visitez votre concessionnaire autorisé BRP pour plus de détails.
Boulevard 102. Radio Rock de Québec.
Boulevard.
Le rock, ça nous coule dans les veines. Et on partage cette passion-là avec vous. Mettez ça sur le poste, assoyez-vous confortablement et profitez du meilleur rock à Québec. Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invité de ce soir, Joël Monzé, il est docteur en neurosciences. Joël, avant la pause, on a parlé un peu de TDAH, puis on va continuer un peu de parler de TDAH en parlant des cliniques de neuropsychologie. Qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, les neuropsychologues au Québec, ce sont des personnes qui sont habilitées à faire passer des tests psychométriques, donc qui mesurent l'importance d'un certain nombre de comportements qu'on associe éventuellement à un déficit. D'accord? Donc, par exemple, si le parent doute que son enfant, mettons que l'enseignant s'inquiète, elle dit « vous voudriez peut-être bien aller chercher un diagnostic », le premier réflexe, c'est de demander éventuellement à son médecin de famille. Le médecin de famille va dire « écoute, ce n'est pas en 8 minutes que je suis capable de pouvoir déterminer si ton enfant a un TDA ou un TDAH, va voir, comment dire, au bouclier ». Et si le bouclier, donc c'est le public, si le bouclier ne peut pas répondre à tes besoins, ben, va voir au privé, ce sont les cliniques de neuropsychologie. Donc, les neuropsychologues, bien souvent, ils vont faire passer une batterie de tests qui permettent éventuellement de déterminer la fréquence d'un certain nombre de comportements qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En l'occurrence, l'hyperactivité, l'impulsivité ou la distraction fréquente, c'est des comportements qu'on dit qu'on n'aime pas. Donc, éventuellement, on va les considérer comme étant un trouble psychiatrique. Donc, quelque part, le test est un outil et c'est comme le marteau. Il ne faut pas faire dire au marteau ce que le marteau ne dit pas. Donc, si j'essaie de faire rentrer une vis dans un morceau de bois, mon marteau ne me sert à rien. Donc, la manière dont je vais utiliser les tests neuropsychologiques, ça peut être problématique. Et pourquoi c'est problématique? Parce que si le neuropsychologue n'a pas pris le temps de créer un lien réel de confiance avec le jeune, est-ce que le jeune, dans la manière dont il va répondre aux tests, d'accord, aux différentes questions, il n'est pas dans la même situation que quand il est en classe et qu'il doit faire un travail dans une matière qu'il n'aime pas? Donc, est-ce que c'est un problème de motivation, d'intérêt, de confiance, ou c'est un problème neurodéveloppemental? OK? Et ça, ce sont des questions que tous les neuropsychologues et tous les psychologues n'adressent peut-être pas toujours. Il y en a qui le font, mais en même temps, tu sais, tantôt, quand je te disais que ça remet en question certains modèles et que les gens qui remettent en question les modèles ne sont pas toujours les bien considérés par le syndic de l'ordre des psychologues.
Parce que vous les faites, parce que vous les faites travailler plus, Joël.
Oui, peut-être, peut-être. Mais tu sais, c'est connu aujourd'hui qu'il suffit de déposer une plainte facile contre le thérapeute en clinique pour qu'il y ait une enquête. Et quand on est enquêté, on a toujours tort. C'est la personne qui porte plainte qui a raison. On aurait donc dû être plus prudent, on aurait donc dû ceci. Mais ça ne va pas nécessairement au conseil de discipline, dans le sens qu'il n'y a peut-être pas une faute qui a été commise, mais c'est certain que ça met une pression sur beaucoup de psychologues de fermer les yeux sur les aspects sociologiques, sur les aspects pédagogiques, sur les aspects familiaux. Et à ce moment-là, ben, ça fait en sorte que l'évaluation neuropsychologique, au lieu de vraiment être un outil qu'on utilise bien et qui va aider le médecin à poser le diagnostic, parce que le diagnostic, c'est un acte médical. Le neuropsychologue fait une évaluation, d'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, le médecin, il va peut-être avoir un outil qui n'est peut-être pas nécessairement le meilleur des outils pour l'aider à prendre sa décision. L'autre chose, c'est que les normes qu'on utilise beaucoup, qui ont été mises en place il y a 15 ou 20 ans par l'ordre des psychologues et le collège des médecins, c'est que la médication est souvent le premier item qu'on va retrouver dans les recommandations du test neuropsychologique, d'accord, dans les conclusions. Or, la médication n'est pas nécessairement toujours la meilleure des stratégies. Si je pars du principe que c'est un problème génétique, ben on ne peut rien faire. Si je pars du principe que s'il y a peut-être des enjeux au niveau pédagogique, il y a peut-être des enjeux au niveau social, il y a peut-être des enjeux au niveau familial, mais ça me donne l'occasion d'aller travailler sur des secteurs qui vont aider le jeune à développer ses habiletés. Mmh. Peut-être qu'il y a des transformations de comportement qu'il faut qu'il se fasse au niveau du comportement de papa et de maman. De nouveau, ça peut être des bonnes personnes, mais qui sont juste plus à la bonne place dans leur vie, qui ne sont pas bien. Et ça va avoir un impact sur le jeune. Et ça, les tests neuropsychologiques ne le mesurent pas. Puis on s'entend, tu sais, quand je faisais de la psychothérapie, parfois, même des adultes qui viennent me voir, en privé, mais pour commencer à parler de leur vraie bibitte, ça prend du temps. Ça prend parfois 5, 10, 15, 30 séances pour que l'adulte me fasse confiance, pour me raconter sa part de responsabilité dans les conflits familiaux, par exemple, ouais, ou dans les conflits conjugaux. D'accord? C'est plus facile de dire que c'est l'autre qui est en tort. Donc, il y a tout un lien de confiance qu'il faut créer. Et les enfants, parfois, à force de s'être fait chicaner par les adultes autour d'eux, parce qu'ils ont des comportements qui dérangent, ils ont des comportements qui inquiètent, ils se désorganisent, ils provoquent, ils dérangent, ben, ils ont peur de l'adulte, ils ont de la misère à faire confiance. Donc, à partir de là, est-ce que l'évaluation neuropsychologique est toujours appropriée? C'est un outil, comme ouais, je disais tout à l'heure, comme le marteau, mais ce n'est peut-être pas nécessairement toujours la bonne chose. Tu sais, si le jeune, avant de rentrer dans le bureau du neuropsychologue ou avant de rentrer dans le bureau du médecin, il a joué sur le téléphone cellulaire de son parent, mais il va rentrer tout craqué ou complètement dans la lune.
Ouais.
Et puis alors à ce moment-là,
puis en même,
ça va.
Ouais. Puis en même temps, Joël, moi, j'ai pas d'enfants qui sont TDAH là, pour l'instant. Il n'y a pas de diagnostic là. Mais quand on se rend avec nos parents dans une clinique spécialisée, on est au courant qu'on a fait quelque chose puis que nos parents ont besoin de, peut-être de quelqu'un d'autre. Il y a un stress supplémentaire qui est là. La personne qui est devant toi, que tu ne connais pas, qui est un neuropsychologue, c'est ça?
Oui.
Est peut-être pas adéquatement, je sais pas, efficace pour te mettre à l'aise en tant qu'enfant quand tu rentres dans son laboratoire. Il doit y avoir un facteur de stress là-dedans, oui, aussi. Là. Puis là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a des entrevues individuelles, il y a des tests psychométriques, donc des calculs mentaux, logique, gestion du stress, habileté cognitive, des liens situationnels. Il y a des questionnaires qui sont auto-rapportés, donc la personne va s'évaluer elle-même. Puis il y a des discussions avec les proches. Donc, si tes parents sont plus capables, parce que le professeur les appelle à tous les jours, envoie des courriels en disant « Votre enfant va se faire mettre dehors », le chauffeur d'autobus qui se plaint du comportement de votre enfant, le parent va juste vouloir dire, regarde, je ne sais pas quoi faire, là, mais trouve-moi un moyen pour qu'il arrête d'être une problématique à l'école, dans l'autobus ou quand il est ailleurs, quand il se fait garder. Ça peut être, il y a plusieurs choses qui peuvent être trompeurs dans les tests, là.
Oui, et c'est ça qui auquel il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que les psychiatres sont parfois moins enclins à poser des diagnostics que certains psychologues ou neuropsychologues. Ils ne vivent pas nécessairement toujours la même pression non plus, d'accord? Mais parce qu'on peut s'entendre que le neuropsychologue, il a une pression, il a un client qui a besoin d'avoir une réponse.
Ah oui.
Donc, lui aussi peut être dans une situation de détresse pour répondre correctement à son, à son client. Il peut avoir peur d'avoir une plainte. Et comme pour l'instant, c'est plus facile d'avoir une enquête parce que le neuropsychologue ne pose pas le diagnostic, l'évaluation, pardon, ou ne va pas dans la direction qui est souhaitée par plusieurs personnes plutôt que d'aller dans la direction qui est souhaitée par l'entourage. Mais c'est certain que ça va venir jouer. Ce sont des êtres humains, d'accord? Donc, on est tous soumis. Ça va être la même chose pour ton médecin. Quand tu vas le voir, si tu viens parce que tu as regardé pendant des heures l'Internet et que tu t'es pré-diagnostiqué, tu vas mettre une pression énorme, d'accord, sur les épaules de ton médecin pour qu'il pense que tu ne devrais pas